Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour votre émission de l'été, les coulisses de la mémoire. Je vais vous parler aujourd'hui d'une pièce créée en 1929 et qui aujourd'hui ferait hurler toutes les féministes passées, présentes et à venir. C'est une pièce de André-Paul Antoine qui s'appelle « L'ennemi E ». Je précise « E » parce que c'est dans le titre. Et l'ennemi en question, bien sûr, c'est la femme. André-Paul Antoine était le fils d'André Antoine et il était comédien et il a écrit quelques pièces de théâtre. Voici comment débute cette pièce « L'ennemi » créée, je vous le rappelle, en 1929. Nous sommes dans un cimetière, c'est la nuit, les 12 coups de minuit, et à ce moment-là, des monuments funéraires sortent de défunts qui échangent entre eux. Le premier défunt. Belle nuit, hein? Oui! Mais froide. Hé, l'hiver approche. Bonsoir. Bonsoir. Mes compliments, vos fleurs sont superbes. C'est inouï comme elles ont résisté à l'arrière-saison. Oui, j'en suis assez content. Vous semblez tout bizarre ce soir. C'est vrai, je suis mélancolique. Allons donc. Et pourquoi? Parce que demain, c'est la Toussaint. Et la Toussaint, c'est la fête des vivants. Eh bien, ce jour-là, ils se croient obligés de venir nous raconter leurs embêtements sous prétexte de nous consoler d'être morts. C'est insupportable. Ils pensent nous être agréables. Mais non! Ça les soulage. S'ils venaient pour eux-mêmes, on les verrait plus souvent possible. En tout cas, moi, demain, je suis sûr de voir arriver ma femme. Si vous croyez que c'est drôle, bon, évidemment. Quand je pense que je vais entendre encore une fois les vieux reproches qui me faisaient fuir la maison, j'enrage. Ah! Votre femme évoque ses souvenirs. Oui, ses souvenirs de guerre. De notre guerre, oh! Sans violence. Elle a le triomphe discret. Elle me plaint. Elle me gourmande gentiment à petits mots, mielleux d'avoir été si méchant, de l'avoir tant fait souffrir, de n'avoir pas écouté ses conseils. Elle détaille minutieusement ses ennuis présents, qu'elle attribue naturellement à mes erreurs passées. Elle dérange mes fleurs pour savoir qui les envoie. Elle gratte ma tombe avec une petite pelle comme un rongeur. Puis l'idée que je suis là pour toujours, qu'elle est absolument certaine de ne plus jamais me revoir, l'incite à l'indulgence. Elle énumère une dernière fois mes innombrables méfaits, soupire longuement, m'absout et va dîner. Par moments, j'éprouve comme une frénésie de la rouer de coups. Pauvre femme, oh, elle n'est pas à plaindre. Vous avez été mariée longtemps. 10 ans. C'est même la seule chose qui me console d'être mort. À ce que je vois, vous ne faisiez pas bon ménage. Non. Nous nous haïssions comme tout le monde. Grâce à Dieu, tous les couples ne se haïssent pas, si. Seulement la plupart l'ignorent. Nous le savions. C'est triste. Ce qui est triste, c'est d'être embêté même après sa mort. Je n'aurai pas demain pareil ennui. Vous n'attendez personne? Personne. Vous n'avez pas de famille? Aucune. Vous ne connaissez pas votre bonheur. J'envie peut-être le vôtre. Si vous voulez ma place, hélas. C'est impossible, tant pis. C'est tout de même curieux que personne jamais ne soit content de son sort. Continuant à échanger ces propos, les deux défunts réalisent qu'en fait, ils ont connu la même femme. Le premier défunt, le plus jeune, l'a connue comme fiancée. Il était fou amoureux d'elle. Il a essayé de gagner de l'argent pour la rendre heureuse. Elle n'a pas supporté l'attente. Il s'est suicidé. 2 mois après, la jeune fille épousait un homme, le premier défunt dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est ainsi qu'on découvre que cette femme qui va venir demain, en réalité, a été en quelque sorte la femme des deux autres. Voici comment il découvre. Le premier défunt qui s'est suicidé, elle est peut-être morte de chagrin. Rassurez-vous, elle n'en a rien fait. Pourquoi? Elle s'est mariée 2 mois après. Il s'agit bien de Moselle Durand de Brest. Eh bien, c'est ma femme. Quoi? Je l'ai épousée 2 mois après ce qu'on nomme votre accident à la garce. Oh, pardon. Il n'y a pas de mal. 2 mois après, ça vous étonne, c'est effarant. Voyez bien. Et elle ne vous a jamais parlé de moi? Jamais. C'est par hasard que j'ai appris votre histoire. Et arrive, dans cette scène du cimetière, un troisième défunt qui lui représente un membre indissociable du théâtre de l'époque, l'amant. La femme qui était mariée n'était pas contente de son mari, elle a multiplié les amants, et notamment un avec qui elle décide un beau jour de partir. Cela ne fait pas du tout l'affaire de l'amant en question. Il se voit très bien amant, il ne se voit pas du tout mari. Et là, on a une scène incroyable entre le mari et l'amant. Ils ont prudemment fait sortir la femme qui est l'enjeu de leur discussion. Et l'amant explique au mari qu'il ne peut pas récupérer sa femme puisque lui est un amant, il n'est pas un mari, point. Il explique ça au mari. Ensuite, il arrive à convaincre la jeune femme de rester avec son mari et celle-ci se précipite dans les bras de son mari alors qu'elle allait le quitter quelque temps avant. manque de chance, en voyant que sa femme revient, ni une ni deux, le mari fait une attaque et meurt. Reste évidemment l'amant. À la création, en 1929, c'était André Luguet qui jouait l'amant. Et dans la pièce, l'amant en question joue son rôle complètement, au point que son ami médecin lui dit « Écoute, il faut que tu arrêtes, tu pars te reposer. » Il est d'accord. La maîtresse lui explique que ça ne se fait pas. Pris dans son rôle d'amant, il reste. Et 2 ans après, il meurt d'épuisement. La boucle est bouclée. Les 3 personnages masculins sont morts. Et à la fin de la pièce, on est donc le jour de la Toussaint. La femme vient porter des fleurs sur la tombe de son mari, éventuellement de son amant, puisqu'ils sont enterrés côte à côte. Elle a une fille à qui elle a raconté tous ses malheurs, combien elle avait été épouvantablement malheureuse, et la fille en question décide de ne plus jamais accorder d'attention à un homme, et puis arrive ce qui devait arriver, elle rencontre un beau jeune homme, ils vont se retéléphoner, sans doute vont-ils recommencer. Et la mère dit à sa fille, « Ce n'est pas à ton âge qu'on doit renoncer à vivre. Tu as rompu définitivement avec ce garçon ? Pas tout à fait, il doit me téléphoner demain. Ah, la bonne heure. Seulement voilà, téléphonera-t-il ? N'en doute pas. Ça sera difficile à rattraper, mais non. Ne t'inquiète pas, je serai là. Tout de même, si c'était vrai qu'il n'aime plus la femme, eux ? Ha ha ! Allons donc. Ils sont comme les autres. Ils jouent au blasé pour masquer leur cœur, crois-moi. Il y aura encore de beaux jours pour vous autres. Ils auront beau faire, ils y reviendront. Je vous remercie de m'avoir écouté. »